Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 novembre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, troisième dose de vaccin obligatoire pour les plus de 65 ans à partir de mi-décembre. Pas de réforme des retraites avant 2022. Le président de la République a évoqué hier soir les priorités des cinq derniers mois de son mandat. On y revient en détail dès le début du journal, Anaïs, après les autres titres.
Les copropriétés face aux travaux d'isolation coûtent. Projecteur de France Inter aujourd'hui à l'occasion de la journée de lutte contre la précarité énergétique. En Mayenne, la joggeuse disparue lundi a été retrouvée vivante, mais en état de choc, nous serons sur place. Et puis elle tient la baguette, la chef d'orchestre américaine Karina Kanellakis dirige à 40 ans son premier opéra en France.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Oui, elle a tiré son épingle du jeu lundi soir lors du premier débat de la droite. Elle a réussi ce premier grand oral selon la plupart des commentateurs. Comment juge-t-elle ce matin la prestation et les mesures annoncées par Emmanuel Macron hier soir? La candidate pour 2022, Valérie Pécresse, est notre invitée.
A tout à l'heure, Léa. À 8h20, on parlera évidemment de l'allocution du président de la République hier soir avec le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, qui publie par ailleurs Un éternel soleil en librairie aujourd'hui chez Albin Michel. Dialoguez avec lui vos questions tout à l'heure. 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter. 27 minutes, la voix enrouée, comme moi maintenant. Emmanuel Macron a donc choisi de s'adresser hier soir aux Français pour parler vaccin, retraite nucléaire, on va y venir. Mais en réalité, un message plus politique que la simple gestion de la crise sanitaire. Simon Le Baron, on a vu un Emmanuel Macron en campagne, entre défense de son bilan et projection vers 2022.
Emmanuel Macron n'a pas besoin, au fond, d'officialiser sa candidature.
Française, Français.
Tout ce qu'il a à faire, c'est d'insinuer qu'un seul mandat ne suffit pas. Sur la gestion de la sortie de crise.
Cette stratégie du quoi qu'il en coûte, non seulement nous a permis de résister à la crise, mais de rebondir plus fort aujourd'hui.
D'abord la défense de son action, puis la promesse de ne pas s'arrêter là.
C'est aujourd'hui que nous devons prendre de nouvelles décisions pour rester maître de nos vies comme citoyens et maître de notre destin comme nation pour les années qui viennent.
Idem sur la valeur travail.
Depuis 4 ans, le travail paye mieux. Avec l'augmentation de la prime d'activité de 100 euros au niveau du SMIC, avec la défiscalisation des heures supplémentaires et des pourboires, avec les baisses d'impôts inédites.
Bilan et perspective.
Il faudra dans les années à venir poursuivre ces choix et financer notre modèle social en taxant moins le travail.
Même chose encore sur la sécurité.
Les résultats sont là, mais très clairement... Nous sommes lucides sur le travail qui reste à faire.
À l'arrivée, Emmanuel Macron n'aura pas dit grand-chose de ces nouvelles décisions qu'il compte prendre. Il aura en revanche fait passer son message à des dizaines de millions de Français. Donnez-moi un second quinquennat.
N'ayons pas peur. Croyons en nous.
Croyez en moi, aurait aussi pu dire le président.
Sur le vaccin, la troisième dose devient obligatoire pour les plus de 65 ans pour conserver le pass sanitaire à partir du 15 décembre et 6 mois après la seconde dose. Les détails sont encore à régler. La campagne de rappel sera également élargie aux plus de 50 ans début décembre. Écoutez ce qu'en pense Christine Rouzioux, virologue à l'hôpital Necker de Paris.
Moi, je pense que c'est très bien. Je pense que c'est une très bonne mesure. C'est une incitation à faire cette troisième dose qui est vraiment nécessaire pour les plus de 65 ans, vu qu'ils ont été vaccinés assez tôt. Ils ont eu leur deuxième dose depuis plus de 6 mois. Par contre, la deuxième décision de faire un rappel, une troisième dose aux 50-64 ans sur la base de 80% des plus de 50 ans sont en réa actuellement, je trouve que c'est un peu insuffisant.
Christine Rouzioux avec Fabienne Sintès. Quant aux gestes barrières, ne surtout pas lever le pied et même retour du masque obligatoire pour tous les écoliers dès lundi, quel que soit le département. Niveau 2 du protocole sanitaire annoncé par le ministère de l'Éducation nationale juste après l'intervention du président. Autre point abordé, la réforme des retraites repoussée à 2022. Et si en 2017, le président promettait que l'âge légal de départ resterait à 62 ans hier, Emmanuel Macron a fait volte-face. Il faudra en 2022, prendre des décisions claires, travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal, dit le président. Qui, sur la question du chômage et les emplois, n'ont pourvu appel à viser le plein emploi en martelant que les chômeurs qui ne démontrent pas de faire une recherche active verront leurs allocations suspendues. C'est déjà le cas. Écoutez Yves Verrier, le patron de Force Ouvrière.
Il y a un côté démago. Ça laisse entendre que ce sont les demandeurs d'emploi qui refusent de prendre un emploi. C'est faux. On l'a assez dit, les métiers en tension souffrent de mauvaises conditions de salaire, de mauvaises conditions de travail, de nature des emplois. Ce sont des contrats courts. Ça ne permet pas de boucler les fins de mois. Et plutôt que de travailler à cela, à revaloriser ces emplois, on va contraindre les salariés à accepter des petits jobs, des jobs au rabais. Et ça, ça n'est pas de bonne politique.
Il varie avec Maxime Debs. Enfin, confirmation de la relance de l'industrie nucléaire et l'annonce de construction de nouveaux réacteurs, sans autre détail ni calendrier. Côté réaction politique de cette intervention, la troisième dose est une excuse pour faire un discours de campagne, dit Marine Le Pen. Emmanuel Macron, agent du nucléaire, une énergie deux fois plus chère que le renouvelable, pour Yannick Jadot.
Il est 7h06, 12 millions de personnes n'ont pas les moyens de se chauffer correctement en France.
Première journée de lutte contre la précarité énergétique organisée par la Fondation Abbé Pierre et une vingtaine d'associations. France Inter a choisi toute la journée de se pencher sur ces passoires énergétiques. Près de 5 millions de logements qu'il faut éradiquer. Pas évident de se lancer dans les travaux dans les copropriétés. Claire Chaudière s'est rendue à l'Association des responsables de copropriétés qui offre un soutien technique aux conseils syndicaux.
Nous avons fait réaliser l'audit il y a déjà
chaque jour,
trois
des
ans.
Dizaines d'appels de copropriétés à mi-parcours d'un projet de rénovation énergétique, parfois bloqué.
Nous avons une première assemblée générale lors de laquelle nous n'avons pas pu faire voter la maison.
Vous êtes combien dans la copro ?
174.
Éric Palu est expert à l'association des responsables de copropriétés. La perspective d'une interdiction prochaine de louer les passoires thermiques a un peu fait bouger les choses, dit-il.
Ça impulse aussi du coup les conseils syndicaux parce que du coup les bailleurs viennent les voir en disant ben voilà, il y a cette loi résilience qui est arrivée, qu'est-ce qu'on va faire ?
Tout comme la hausse des prix de l'énergie et le rajeunissement de certains immeubles.
Il y a la nouvelle vague de jeunes qui arrivent dans les bâtiments et justement là, il y a un élan de rénovation qui arrive parce qu'eux, ils ont plus une valeur verte du patrimoine et je pense que ça bascule. Ouais.
Mais il reste encore de nombreux freins, nuance Camille Morel, responsable rénovation à l'Arc. Le fonds travaux, d'abord insuffisamment alimenté, souvent reversé à l'ancien propriétaire lors d'une vente.
Les vendeurs ne sont pas censés récupérer ce fonds travaux qu'ils ont mis de côté, c'est crucial.
Le coût, bien sûr, en moyenne 20 000 euros par ménage et des financements parfois compliqués à boucler.
Même s'il y a des subventions, les copropriétaires, ils lâchent.
Enfin, si le dispositif MaPrimeRénov a bien trouvé son public, un angle mort important subsiste, ajoute-t-elle. Les petits immeubles construits avant 1940, moins faciles à isoler que les grandes copros des années 70 et donc beaucoup moins subventionnés.
La précarité énergétique en chiffres, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Reportage tout au long de la journée sur Inter et ce soir, au téléphone sonne. Après 24 heures de recherche, le soulagement en Mayenne. La joggeuse de 17 ans a été retrouvée en état de choc, mais bien vivante. Retrouvée dans la soirée, à une dizaine de kilomètres de la maison de ses parents, un village de 500 habitants, sur place à Saint-Brice, Agathe Mahué.
C'est une issue que beaucoup n'espéraient même plus à cause de ce téléphone. Ces écouteurs retrouvés tachés de sang lundi soir sur le trajet de son footing. On craint le pire, répétaient les voisins, jusqu'à cette excellente nouvelle tard hier soir.
Ah oui, soulagée, parce que j'ai eu vraiment très peur. Une voisine qui m'a appelée pour me dire qu'elle était vivante parce qu'elle savait que j'étais perturbée. Je ne saurais pas vous dire ce que ça me fait, tellement je suis heureuse.
Soulagement de cette voisine, tout près de chez les parents. Leur fille, qui courait là jusqu'à 3 fois par semaine, n'a pas eu le temps d'aller très loin lundi soir. D'après son application de course à pied, son footing stoppé net à seulement 5 minutes de sa maison. C'est là qu'elle disparaît. Mais c'est 10 kilomètres plus loin, à Sablé-sur-Sarthe, qu'elle est donc retrouvée en état de choc. Recueillie dans le premier kebab que l'on trouve en arrivant par l'ouest de la ville. Les gendarmes y ont été aussitôt appelés. La jeune fille a probablement été enlevée, d'après les enquêteurs. C'est toute la chronologie de cette parenthèse de 24 heures qu'il faut maintenant reconstituer. Elle a été transportée hier soir vers l'hôpital.
Agathe Mahué. Encore un ex-président de la République à la barre. François Hollande attendu aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre. C'est lui qui était président ce jour tragique. On y revient en détail à 7h30. Et puis dans le procès des sondages de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, de la prison ferme requise hier contre Claude Guéant, 1 an dont 6 mois avec sursis. Des peines d'amende à 1 an ferme contre 4 anciens proches de Nicolas Sarkozy. Place à la défense aujourd'hui. Ce fut le dernier des compagnons de la Libération, Hubert Germain, décédé le 12 octobre dernier. La coupole des Invalides ouverte au public aujourd'hui pour un dernier hommage avant son inhumation demain 11 novembre dans la crypte du Mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Le Mont-Valérien, un lieu d'histoire, lieu d'exécution des résistants et des otages par l'armée allemande entre 41 et 45, mais aussi un lieu où deux versions de la mémoire s'y sont déchirées. Béatrice Duguay.
Dans la chapelle, en attendant d'être exécutée,
quelques hommes ont gravé leurs convictions dans la peinture bleue du mur.
Vive la France, vive l'URSS, vive le Parti communiste.
Aucun doute sur l'engagement de ces fusillés, plus d'un millier au total, abattus dans cette clairière aujourd'hui si tranquille, des résistants et des otages, rappelle Claude Pentier, historien, auteur d'un livre sur les fusillés.
80% des fusillés comme otages sont communistes et une bonne partie sont juifs. Juifs et communistes. Ensuite, il y a les fusillés par condamnation. Les appartenances sont beaucoup plus diverses.
Le 1er novembre 1944, De Gaulle vient se recueillir au Mont Valérien. Il y a foule et ça lui donne l'idée d'un mémorial de la France combattante, refusé par le Parti communiste qui y voit un oubli des siens tomber là. C'est à son retour au pouvoir en 1958 que le général concrétise son projet. Le mémorial tel que nous le connaissons est inauguré en 1960, le 18 juin.
Tous les ans, ça devient le lieu du 18 juin, quoi, avec la Croix de Lorraine qui est là en force. Et en effet, les manifestations de commémoration communiste sont obligées de passer un petit peu sous les fourches codines.
Il faut attendre 2003 pour qu'une cloche portant le nom des fusillés vienne rééquilibrer le site, capital pour aujourd'hui transmettre l'histoire, dit Alexandre Couturas, le directeur adjoint du Mont Valérien.
Le Mont Valérien, c'est un tout. Les lieux doivent devenir les dépositaires des mémoires des témoins qui, à mesure du temps, disparaissent.
Et demain, Emmanuel Macron présidera l'inhumation d'Hubert Germain au Mont-Valérien après un hommage sous l'Arc de Triomphe. Là aussi, on s'est arraché une page d'histoire des bijoux royaux partis pour 7 millions d'euros en 5 minutes hier à Genève, en chaire de Christie's. Les bracelets de Marie-Antoinette, 112 diamants envoyés par la reine à Bruxelles avant de tenter de fuir la France avec Louis XVI. Sotheby's propose aujourd'hui d'autres bijoux impériaux, ceux de la famille du dernier tsar de Russie. Ce qui nous mène à Tchaïkovski, première ce soir au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, d'Eugène Onéguin, avec une nouvelle venue dans le monde de la musique classique. À 40 ans, la chef américaine Karina Kanellakis dirige un opéra pour la première fois en France, Stéphane Capron.
Karina Kanellakis ne dirige des orchestres que depuis 10 ans. Pourtant, c'est à l'école de musique, pendant sa formation, que lui est venue cette vocation.
Quand le chef de l'orchestre à l'école a demandé qui voulait diriger maintenant, c'était toujours moi. Le premier, moi. Mais j'ai jamais pensé que je vais être chef d'orchestre. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai jamais vu des femmes. Peut-être. J'ai pas pris sérieusement. Et quand j'avais 30 ans, j'ai décidé de le prendre plus sérieusement.
Pour ce premier opéra dirigé en France, Eugène Onéguin, Karina Kanellakis est en confiance car elle a baigné dans son enfance dans la musique russe.
Quand j'avais 2 ans, avec ma mère, j'ai entendu le 5e symphonie de Tchaïkovski. Mon père a dirigé son orchestre. Je me souviens beaucoup des histoires. Et en fait, comme enfant, j'ai grandi dans le monde des histoires russes.
Karina Kanellakis est désormais une chef qui compte dans le monde de la musique. Première femme à diriger le concert de remise des prix Nobel en 2018. Elle est chef principale de l'orchestre philharmonique de la radio néerlandaise.
Eugène Onéguin jusqu'au 19 novembre au Théâtre des Champs-Élysées de Paris, mise en scène Stéphane Braunschweig. Et puis un score à faire pâlir d'envie les garçons. Les footballeuses du PSG ont sèchement battu hier le Real Madrid 4-0 au Parc des Princes. Ce soir, autre belle affiche, Lyon reçoit le Bayern Munich.
Anaïs Feuga, merci. Dans 3 minutes, c'est le zoom. Allons-nous vers une saturation dans les abonnements de streaming vidéo?